L'appel des escargots sur Radio Campus 106.6.
L'émission des objecteurs de croissance de Lille.
Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'appel des escargots, l'émission des objecteurs de croissance de Lille. Ce soir, on va passer une heure avec les déboulonneurs. Donc on est à quatre dans le studio. Antoine, Tristan qui est en train de monter un appareil photo pour filmer l'émission. Et les deux déboulonneurs de service.
On se présente alors.
C'est ça. Tout à fait.
Moi c'est Alessandro.
Et moi c'est Marion.
Alors on va baisser, tu peux baisser un petit peu ton micro, comme ça on t'entendra mieux. Alors on vous a invité pour parler de plein de choses, notamment du fait que vous êtes des criminels qui allaient bientôt passer en jugement, c'est au mois de juin, c'est ça, début juin?
Le 9 juin.
Alessandro, c'est un criminel, pas moi. Moi, je suis pas jugé.
Ah, c'est vrai. Non. Il y en a deux, dont Alessandro
et Mallory.
Et Mallory
qui n'est pas là ce soir. Avant de rentrer un peu plus en détail, pour ceux qui ne connaîtraient pas les déboulonneurs, on va expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors peut-être que vous avez vu parfois en vous promenant dans le centre de Lille des panneaux de pub avec des slogans tagués dessus ou bien emballés, recouverts de
barbouillés.
Ah, emballés aussi parfois.
Oui, mais des slogans barbouillés sur les panneaux.
J'ai dit des slogans emballés.
Non, t'as dit tagués. T'as dit des messages tagués.
Ah oui, d'accord, non, ça on n'a pas le droit de dire ça.
La sémantique, pardon, est...
C'est important parce que le tag, pénalement, c'est pas la même chose que le message politique, le slogan. Il n'est pas puni de la même façon. Donc on dit barbouillé. On barbouille des panneaux de pub.
Bien, bon, on va rendu. Pour reprendre un peu le fil, du coup, moi, je voudrais qu'on refasse l'historique de l'anti-pub. Du coup, est-ce que vous... J'ai un peu travaillé, parce que je connais un peu le sujet. Est-ce que vous savez de quand ça date, le mouvement anti-pub, on va dire officiellement la première date?
Alors, ça a été créé en fin 2005.
Mais du coup, pas les déboulonneurs, le mouvement
de l'anti-pub.
De l'anti-pub, ah, ça remonte encore plus loin.
Ça remonte au début de la pub.
Certainement.
Certainement, mais on va dire que le premier mouvement anti-pub, c'est Adbusters, et c'est au Canada.
Il nous pose des questions alors qu'il le sait.
En 1989.
C'est un quiz, en fait, vous êtes là pour vous serez noté à la fin.
Mais non, mais c'est pour voir.
Ben voilà, oui, c'est les Adbusters.
Voilà, tout à fait. Moi, j'ai pas l'accent, monsieur, là. et en France?
Et donc ça, il faut préciser que c'est en Amérique du Nord.
Au Canada. Oui.
Et en France, nous, on connaît notamment un des cofondateurs des déboulonneurs qui s'appelle Yvan Gradis, un des plus vieux, sans lui faire offense bien sûr, un des plus vieux anti-pub de France, et avec François Brune, qui est l'auteur du Bonheur Conforme, oui. Le Bonheur Conforme, à lire un livre un peu capital dans l'anti-pub.
Publié en 81,
bah, ça, c'est peut-être une date à retenir en France pour l'anti-pub, justement, 81. Ça fait déjà plus de 30-35 ans qu'il y a des gens qui s'intéressent au sujet. Et tu en veux, par rapport à l'action, peut-être, anti-pub.
Voilà, par rapport à l'action, mais juste avant, donc 89, c'est Adbusters. et l'année suivante, en 90... Justement, Yvan Gradis, qui commence à éditer une feuille qui s'appelle le Publifob.
Et qui est toujours disponible. Le Publifob qui recense toutes les actions anti-pub en France. Et elles sont nombreuses, elles sont toujours plus nombreuses. Et ça fait plaisir. Et elles prennent diverses formes. Et c'est ça qui est important aussi. Elles sont toutes complémentaires, ces formes. Que ce soit qu'elles soient légales ou illégales, justement. Mais ça, je pense qu'on va en parler.
Et ensuite, la première association française, c'est...
RAP, Résistance à l'agression publicitaire, qui a été créée en 92.
Tout à fait.
Eh ben, ça a révisé sec. Hein. Ouais. Résistance à l'agression publicitaire, qui a une antenne très récente à Lille, et que vous pouvez rejoindre si vous voulez lutter contre la publicité, mais de manière... c'est une association légaliste.
De manière gentille.
De manière... Non, pas gentille, mais c'est quand même une lutte anticapitaliste, disons ce qui est. Hein. Donc, c'est... Non, mais on Il y a beaucoup, beaucoup à faire et de manière très radicale. Nous, ce qu'on dit, c'est que la pub est un danger. Donc, pas de demi-mot, mais seulement c'est dans le mode opératoire qui est différent. Et surtout, RAP est une association qui s'attaque au système publicitaire. Les déboulonneurs dont on va parler, on a un mode opératoire, la désobéissance civile, qui est particulier, on est dans le mode illégal.
Et on s'attaque aux panneaux publicitaires qui sont dans l'espace public.
Exactement,
alors que
c'est ça la grande différence.
On s'attaque à toutes les publicités, à la télé, sur Internet, toutes ces formes.
Pour continuer à dérouler un peu, le mouvement d'après, avant les déboulonneurs.
Ce qui a donné un peu naissance d'ailleurs aux déboulonneurs, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, c'est qu'il y a eu pas mal d'actions anti-pub dans le métro, notamment dans le métro parisien. Il y a eu une grosse action, d'après mes souvenirs, il y a eu vraiment énormément de participants, par centaines ou par milliers, je ne sais plus, qui ont dégradé des milliers de publicités. Ce qui a donné à un procès. J'ai passé une étape.
T'as passé une étape, c'est le comité des créatifs contre la publicité à Lyon, créé par
Vincent
Chenet,
les casseurs de pub,
qui a ensuite édité la revue Casseurs de pub.
Et comité des créatifs, donc c'est des gens qui venaient de la pub eux-mêmes, comme Vincent Chenet, forcément.
J'ai pas l'info sur ça, voilà.
Ouais.
Mais et en fait, il a créé ça en 99 et ça a donné lieu à l'édition de la revue Casseurs de pub.
Casseurs de pub, qui édite le journal
La Décroissance.
La Décroissance.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. Ben oui, non, mais c'est pour dire que le mouvement anti-pub est aussi à la base de la réflexion aussi sur la décroissance. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'anti-pub et puis à la décroissance, et puis inversement aussi, évidemment. Mais c'est un des piliers. Ils se sont bien rendu compte que c'est la publicité est un des piliers du capitalisme, ce qu'on ne cesse de répéter, pour faire comprendre que voilà, c'est là aussi qu'il faut s'attaquer, tout est important. Et si on sape la pub, on sape déjà beaucoup de choses.
Ouais, juste du coup, faire un petit rappel, selon Serge Latouche, il y a trois piliers du capitalisme: la publicité pour faire consommer, le crédit pour permettre, la publicité pour donner envie, le crédit pour permettre la consommation et l'obsolescence programmée pour que la boucle se boucle justement et que ça reparte.
Comme c'est bien fait. Et tu parlais publicitaire tout à l'heure, ça me fait penser que Yvan Gradis, donc un des piliers lui aussi, mais pas du capitalisme, de l'anti-pub, a déjà barbouillé avec Frédéric Becbédé. T'allais le dire, c'est ça?
Non, j'allais pas le dire,
mais pour l'anecdote, Becbédé, qui est un ancien pubard, mais en même temps qui a écrit 99 francs, qui est notamment, et bon, alors. Certes, il n'a pas quitté les mondanités et puis le monde médiatique, mais on l'avait sollicité notamment pour le festival Le Cerveau Disponible, dont on pourra parler peut-être tout à l'heure, festival anti-pub de dépollution mentale, et on a programmé 99 francs, on l'avait sollicité, il nous avait encouragé, et il trouvait que c'était assez formidable de faire un festival anti-pub, même si encore une fois, lui, il est encore un peu dedans dans tout ça. Chacun ses contradictions. Mais voilà, il a barbouillé avec Yvan Gradis. Il y a comme ça des figures qui viennent apporter leur soutien à l'anti-pub. Il y a aussi Edgar Morin qui nous a soutenus lors de procès parisiens et tant d'autres aussi.
Alors on saute pas d'étape si on passe au déboulonneur dans ton plan?
Non, c'est bon. Avant les déboulonneurs, il y a quand même les procès dont tu parlais, dont le très gros procès.
Ah, oui, le très gros procès qui a eu... il y en a 6 qui ont pris pour les autres. Il y a 6 barbouilleurs qui ont...
Mais il y avait...
64.
C'était 64.
Voilà, c'était le procès.
64
on dit le procès des 64, 64. Parce qu'il y avait 64 personnes qui étaient prévenues. Après, je ne sais pas combien ont été condamnés.
Oui, mais après, justement, il n'y en a que très peu qui ont été condamnés. Alors évidemment, il y a une... Je pense qu'il y a eu une solidarité dans le monde de l'anti-pub, mais n'empêche qu'il y a eu des boucs émissaires qu'il y en a qui ont pris pour tant d'autres. Et surtout, vu le nombre de panneaux barbouillés, ça se comptait vraiment. Enfin, la somme demandée était exorbitante. Je ne sais pas si c'était un million de francs à l'époque. Ou, voilà. Ils se sont dit qu'il y avait une nécessité de s'organiser autrement, de trouver une autre stratégie. Et c'est comme ça que une poignée d'anti-pubs historiques, j'ai envie de dire, ont créé le collectif des déboulonneurs de manière nationale en fin 2005.
À Paris et à Rouen simultanément.
Oui, exactement. On peut citer aussi François Vaillant, qui est une autre figure de l'anti-pub et qui a insufflé ce vent de non-violence qui nous porte au déboulonneur, puisqu'il est le rédacteur en chef de la revue Du Man,
mouvement pour une alternative non-violente.
Voilà, ça c'est important de le dire.
Et ça fait pas partie de la stratégie justement de susciter des procès comme celui qui vous est intenté là bientôt.
Si justement c'est stratégique, mais justement pour éviter de se faire massacrer financièrement, justement comme c'est arrivé par le passé, ils se sont dit on va faire des actions de désobéissance civile non violente assumées au grand jour.
Et symbolique.
Donc normalement, c'est s'attaquer à un panneau. Bon, il s'avère que nous, à Lille, on fait plus. Et puis, de temps en temps, c'est plus. Mais c'est vraiment symbolique. Et l'idée, c'était de le faire dans énormément de villes en France de manière simultanée, à chaque fin du mois. C'était ça le point de départ des déboulonneurs, avec un objectif bien précis, c'est de faire changer la loi et de réduire la taille de l'affichage publicitaire dans l'espace public à un maximum de 50 x 70 cm qui correspond à l'affichage publicitaire, qui correspond à la taille de l'affichage associatif et politique à Paris. Et voilà, le but c'était de dire voilà, pourquoi l'espace marchand, l'espace privé et commercial aurait plus de place que des choses aussi importantes que la politique et l'associatif surtout.
Voilà. C'est
magnifique. Ça fait 9 ans qu'on fait ça. Hein. Ça fait 9 ans qu'on répond aux questions.
Et
juste pour rappeler un truc, c'est que elle en a parlé un peu, Marion, mais la lutte des déboulonneurs, on lutte contre l'omniprésence, le matraquage publicitaire dans l'espace public. Qui nous est imposé. On dit souvent que la télé, la radio, dans les magazines, même si c'est très dur, on peut échapper à la publicité puisqu'on peut zapper en quelque sorte, alors que dans la rue, on ne nous a pas demandé notre avis et avec la complicité souvent des mairies et des institutions, on nous matraque de publicité partout dans l'espace public qui est le nôtre, on ne nous a pas demandé notre avis. Et on s'est attaqué à ça et de manière stratégique, ceux qui ont créé les déboulonneurs nous expliquaient aussi que ils ont essayé de s'attaquer à la publicité, à la télévision. Et là, le lobby déjà dans l'espace public est immense. Alors la télévision, imaginez bien que c'est plus que David contre Goliath, quoi. Donc là, c'est un but atteignable.
Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu n'as pas dit, c'est le fait que le but, c'était que ça SM partout en France et qu'il y en ait beaucoup, 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 beaucoup.
Oui.
Alors malheureusement, on n'y est pas encore arrivé. Voilà, il y a eu des collectifs dans peut-être une dizaine de villes qui ont existé.
15.
Mm-hmm. Ouais. Il y a certains collectifs qui se sont pris un procès dès la première action, donc forcément, ils n'en ont pas forcément fait d'autres. Voilà, mais il y a encore des nouveaux collectifs qui se créent. Il y en a un qui vient de se créer à Arras. Il a commencé début janvier 2015 et il a déjà fait 3 actions. Voilà, donc il y a encore des nouveaux collectifs qui se créent.
Et bon, c'est sûr que si le but d'essaimer, c'est-à-dire que si on avait 100 villes qui simultanément barbouillaient, faisaient de la désobéissance partout en France, il y aurait un certain poids médiatique. Et donc une force de la société civile qui se mobilise. Et malheureusement, elle ne se mobilise pas parce que notre grande difficulté, c'est de montrer pourquoi la publicité est dangereuse. Il y a des choses où on voit tout de suite, voilà, ou alors qui sont expliquées. On a compris un peu que la cigarette, ça pouvait être un danger pour la santé publique, même si ça ne se voit pas tout de suite non plus les dégâts. Mais là, c'est encore pire, quoi. Les gens ne font pas le rapport entre la publicité et les dangers environnementaux, sanitaires et sociaux.
Pour ça, il y a des experts qui viennent témoigner au procès, c'est ça, scientifiques, pour expliquer les effets concrets de la publicité, que oui, ça fonctionne, contrairement à ce qu'on peut se dire parfois, et ce que certaines personnes disent au cours des actions, que sur moi ça marche pas, je vais pas aller acheter automatiquement le produit qu'on voit sur le panneau juste parce que j'ai vu la pub.
Ouais, tout à fait, on a des phrases types comme ça qu'on rencontre souvent. Sur moi ça fonctionne pas, alors que même nous anti-pub, ça fonctionne, et malheureusement enfin ça fonctionne sur tout le monde. D'ailleurs, il suffit d'aller sur les sites des annonceurs, enfin des afficheurs qui se targuent, qui se vantent même de vous manipuler, de nous manipuler justement, et de, par exemple ils se disent autant de passages devant un panneau de pub, vous êtes en voiture, vous êtes à pied, et au bout de autant de passages, 6 passages, le message est inscrit dans votre cerveau. Mais il y a des gens que ça ne gêne pas apparemment d'être manipulés. On est tous les mois dans la rue, on discute forcément avec le public, le grand public, les gens qui nous saluent, il y a plein de réactions diverses, hein. Il y a des gens qui sont d'accord avec nous et qui nous encouragent. Il y a des gens qui sont choqués par le fait qu'on sème le désordre, parce que la désobéissance et le désordre ne sont pas bien vus en France et un peu partout dans le monde. Même s'il est très minime, même si c'est juste un barbouillage très léger, symbolique. Et puis il y a des gens qui sont carrément hostiles à ce qu'on fait et qui ne comprennent pas du tout, et qui se disent mais moi ça ne me touche pas, c'est pas grave, voir la publicité c'est très esthétique, ça rend vivant la ville, comme l'a dit Alain Juppé, comme l'a dit Jacques Séguéla également, enfin des trucs un peu fous. Et puis surtout il y a les deux arguments massus qui sont, puisqu'on va parler d'objection de croissance, c'est ça crée de l'emploi et c'est bon pour la croissance. Et il faut démonter tout ça.
Eh bien, une manière de démonter tout ça, c'est la désobéissance civile. Et du coup, on va écouter une petite chanson.
HK et les saltimbanques, c'est la dernière apparemment. Sans haine, sans armes et sans violence.
Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence. Sans désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Prédicateurs, de la sainte finance. Toxicomanes, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe, blasphématrice, jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes.
Vous êtes toujours avec l'appel des escargots sur Radio Campus. C'était sans haine, sans armes et sans violence de HK et les Saltimbanques. Et si vous allez voir la vidéo sur YouTube ou sur... toujours pas de marque. si vous allez voir la vidéo sur Internet, vous verrez que le clip montre tout un tas d'actions de désobéissance civile, dont apparemment les déboulonneurs. J'ai pas vu là, mais
si.
On voit les déboulonneurs.
Oui, tout à fait.
Donc on est, pour ceux qui auraient raté le début, avec les déboulonneurs.
Collectif anti-pub. Oui, parce que on nous demande aussi, mais pourquoi vous avez choisi ce nom? Et on peut rappeler, c'est parce qu'au départ, de manière symbolique, on voulait déboulonner la pub et la faire tomber de son piédestal comme ça. Et on s'était dit que si par le barbouillage de panneaux publicitaires, on n'arrivait pas à obtenir gain de cause, c'est-à-dire la réduction du format... de ces immenses panneaux publicitaires, un maximum de 50 x 70 cm. Et l'autre objectif, c'est la liberté de non-réception, c'est-à-dire la liberté de ne pas subir en permanence ces messages dans la rue. Eh bien, on passerait à l'étape supérieure, c'est-à-dire au démontage, au déboulonnage propre de panneaux publicitaires. Alors la difficulté, c'est que c'est très... nous, justement, on est sans armes, sans violence, on est dans la non-violence, et aussi on dégrade de manière légère pour pas se faire taper dessus au niveau financier avec des procès. Donc on dégrade pas vraiment les panneaux, et tout ce qu'ils attendent en face, c'est qu'on les casse. Et chez les déboulonneurs, tout du moins, on casse pas, en tout cas. Et pourquoi je disais ça? Parce que oui, les panneaux maintenant sont faits d'une pièce et on ne peut pas les déboulonner facilement. Heureusement, si j'ose dire, il y en a quelques-uns en tout cas à Lille, et on l'a déjà fait. On est les seuls, je pense, en France à avoir concrètement déboulonné, enlevé les boulons d'un panneau de pub et l'avoir déposé.
À deux occasions.
À deux occasions, et on a offert à ce panneau...
Un enterrement digne de ce nom.
Voilà.
On a enterré la pub.
Rest in peace.
Mais alors du coup, si on revient un peu en arrière, donc, fin 2005, la création des déboulonneurs en France. Mm-hmm. Et ça arrive quand à Lille et comment?
Alors je peux en parler parce que j'étais là justement à cette époque. À Lille, pour ceux qui connaissent, il y a le café citoyen qui se crée place du marché aux chevaux. Et au café citoyen, bah, tout d'un coup, il y a plein d'associations et de collectifs qui se rejoignent, qui se croisent, les liens se tissent. Et il s'avère que nous, on a commencé... Il y avait le journal La Décroissance qui était apparu en 2003 ou 2004, je ne sais plus. Et je fais partie des personnes qui avons lancé des rencontres débats au café citoyen. Donc vraiment, tout s'est bien coupé à ce moment-là. Et en discutant tout ça, il y a des déboulonneurs. Voilà, on a fait une marche pour la décroissance en 2006, et il y a des voilà, on s'est croisés, il y a eu des rencontres, dont celle avec Alex Barré, qui est un des cofondateurs du collectif national, qui est venu à Lille une fois et deuxième fois pour nous parler de ce projet-là. Et nous, ça nous a séduit. On est passé à l'attaque en juin 2006. Donc, on obtient un procès 9 ans après.
Et du coup, bon, toi, tu as parlé de ton cas personnel, mais Marion, tu as rejoint quand les déboulonneurs ?
Les déboulonneurs, ben, j'ai d'abord lu La Décroissance, voilà, dès 2004. J'habitais au Mans, où il n'y avait pas de mouvement anti-pub. Et j'ai déménagé temporairement à Montréal, où j'ai lu Adbuster. Et quand je suis rentrée en France, je suis arrivée à Lille et je me suis renseignée, il y avait un collectif des déboulonneurs. Donc, j'ai rejoint un collectif des déboulonneurs en arrivant à Lille.
D'accord. Et bah, du coup, comment ça se passe concrètement, une action ?
Bonne question.
Merci.
Alors, c'est des actions publiques. Donc, d'abord, on fait une annonce. Donc, c'est publié dans la presse, le lieu de rendez-vous, c'est pas secret.
C'est relayé ici aussi, en général.
Voilà, merci. Et donc, c'est des actions publiques. Les gens, normalement, 2 jours, sauf l'hiver, on fait ça de nuit, parfois. On se retrouve à un endroit. Les rôles sont définis au préalable, savoir qui va barbouiller. Donc, il n'y a pas énormément de personnes qui barbouillent, parce que c'est un geste symbolique. Voilà, et donc, on s'attaque à un ou plusieurs panneaux avec une bombe de peinture. Donc, l'action de base typique, c'est d'écrire un slogan sur un panneau publicitaire à la bombe de peinture.
Par exemple, pas besoin de créer des besoins, stop pub.
La pub nous rend inutile.
Pub égale pollution visuelle et mentale, etc. etc.
Stop au publisexisme.
Ouais, ouais. Donc, c'est vrai. Mais comme tu le dis, il y a plusieurs modes opératoires. À la base, les déboulonneurs, c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire que comme on veut changer la loi, on dégrade même de manière légère le panneau. Il y a des collectifs pour commencer, par exemple la race, qui commence avec pour se faire la main. Qui commence avec l'enrubanage, donc avec un film plastique, on enrubane les panneaux et on écrit dessus des messages pareils. Soit on bâche les panneaux, soit on inscrit, on peut, par exemple sur du papier craft, on peut inscrire des panneaux, des slogans ou des dessins, voilà, et on les pose sur les panneaux de pub. Tout ça pour faire créer du débat public. Et voilà, donc il y a de l'illégal et du légal. Mais à la base, c'est illégal parce qu'on cherche aussi, et c'est un moyen, c'est pas un but, mais c'est un moyen d'obtenir des procès pour faire changer la loi.
Dans la plupart des cas, à Lille, ça se passe bien. La police nous ignore.
Ça se passe bien ou pas.
Ou la police est zélée.
De rares fois.
Et donc, c'est-à-dire
C'est-à-dire, j'ai plusieurs scènes en tête d'enrubanage où la police se charge elle-même d'enlever le plastique pour qu'on puisse admirer ces magnifiques.
Ce qu'il y a de plus jouissif, c'est quand on arrive à prendre des photos de policiers qui protègent le panneau. C'est beau à voir. Qui protègent le capital. Et c'est déjà arrivé, vraiment, c'est incroyable, quoi. On les paye pour ça, donc. Mais il faut savoir que la police, quand on est arrêté, ce qui arrive assez rarement à Lille, est parfois tout à fait d'accord, et parfois, pour le coup, est très zélée et très jugeante, et voilà. Mais c'est très difficile de leur faire comprendre ça.
Alors, quand vous êtes arrêté, en tant que criminel, on veut prélever votre ADN.
Juste avant, oui. Pour revenir, quand les policiers viennent, c'est soit contrôle d'identité, enfin, soit rien du tout, soit contrôle d'identité. Voilà, racontez-nous comment ça se passe.
On va être un peu plus précis. C'est-à-dire que déjà, il y a des différences entre les villes. J'aime rappeler à la police qu'apparemment, la loi n'est pas la même partout en France. Et donc à Paris, clairement, ils sont arrêtés. Plus maintenant parce qu'ils les connaissent et ils les laissent écrire un peu pendant une minute. Mais au départ, c'était ils touchaient le panneau et il y avait des hordes de CRS qui les prenaient. Voilà. Nous, on se laisse faire puisque c'est non violent. Hein, mais ils sont conduits au poste. Nous, à Lille, il s'avère que très rapidement, les RG, les renseignements généraux et les policiers qui téléphonaient à leurs supérieurs nous ont laissés tranquilles ou nous avaient ordre, on ne sait pas par qui, de nous laisser tranquilles. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'intelligence, entre guillemets, de ne pas d'offrir de tribune par le procès aux déboulonneurs. Parce qu'ils savent très bien qu'on a des arguments, ils savent très bien qu'on est dans le bon sens et que les dangers sanitaires, écologiques, etc. peuvent être démontrés. On va parler des témoins dont tu as parlé tout à l'heure. Mais voilà. Donc on a, pendant 9 ans, on a été arrêté de temps en temps, parfois par erreur, parfois quand même... Et voilà, ça aboutit de manière assez surprenante, 9 ans après, à un procès. Et pour répondre à ta question plus directement, donc Marion l'a dit, il y a plusieurs rôles. Il y a un contact police, justement, pour si jamais. Parce que les policiers ne savent pas à qui ils ont affaire. Souvent, ils sont un peu les gens qui désobéissent. Mon Dieu, les gens qui s'attaquent au mobilier urbain. Petite parenthèse, le mobilier urbain. Les gens pensent qu'à cause de nous. Ils vont avec leurs impôts. Leurs impôts qui vont servir à nettoyer le panneau. Or et que ça appartient à tout le monde ce si beau panneau de pub. Or ce mobilier urbain comme on dit, c'est un matériel public. C'est pas du tout
privé. Sur le domaine public.
Sur le domaine public. Et donc c'est JC Deco et compagnie qui nettoient. Et donc, voilà, il y a un contact police pour calmer le jeu et pour dire, voilà, on va se rendre après, laissez-nous barbouiller un peu. On est non-violent et tout de suite, là, souvent, ça se calme. Il y a quelqu'un qui fait un compte-rendu, il y a quelqu'un qui contacte presse, il y a des gens qui ramènent du matériel, parce qu'il faut du matériel. Parfois, il faut des échelles pour monter, barbouiller les panneaux de pub 4 fois 3 mètres. Voilà, il y a toute une organisation. Souvent, on essaie de faire venir aussi une fanfare ou alors des musiciens pour que ça soit plus convivial encore, parce que les déboulonneurs s'inscrivent dans ce qu'on appelle souvent le nouveau militantisme, c'est-à-dire militantisme un peu plus convivial, voilà, ou même artiviste, puisqu'on parfois on essaie de mettre de créer aussi, hein, créer c'est résister c'est créer, donc on essaie de détourner des pubs ou alors de faire en sorte que ça soit un peu plus artistique. Et donc voilà, donc on chante aussi, on peut, voilà, c'est des actions vraiment jouissives pour ceux qui barbouillent et qui désobéissent, même s'il y a des risques, et à la fois pour les spectateurs, c'est enthousiasmant de voir qu'on peut désobéir, quoi.
Et à Lille, la pub, ça donne quoi? Voilà, parce que du coup, vous parlez de désobéir, tout ça, mais concrètement, il y a combien de panneaux?
Alors, à Lille, la publicité, c'est 750 panneaux, et il y en a 250 qui sont illégaux. Alors, illégaux parce qu'il y a un règlement local de publicité, alors c'est celui de la ville de Lille, qui dit, par exemple, dans telle zone, la publicité est interdite, dans telle rue, c'est une publicité tous les 200 mètres... voilà, nous on a compté ces panneaux, on les a mis sur une carte, on a une jolie cartographie. Voilà, il y en a 250 qui sont illégaux. Donc déjà, si on respectait la loi, il y a déjà un tiers des panneaux qui sautent. Maintenant la situation à Lille, là il y a le règlement local de publicité, maintenant la compétence c'est LMCU, maintenant ça s'appelle MEL. Voilà.
Métropole Européenne de Lille.
C'est ça.
C'est beau.
Et donc c'est eux qui ont la compétence maintenant, donc ils sont en charge de rédiger un règlement local de publicité pour l'ensemble des 85 communes de la MEL. Voilà, donc toute la difficulté justement de faire un règlement qui va des WEP jusqu'au centre-ville de Lille. Donc il y aura
Et qui va jusqu'à la frontière belge.
Et jusqu'à la frontière belge.
Mais heureusement, il y a de la consultation, la belle consultation, la démocratie.
Ouais, donc justement, Marion, tu as assisté à une de ces réunions de concertation.
De consultation.
Ouais. On peut
citoyens.
Peut-être rappeler en amont ce qu'il y avait eu. Il y avait eu des questionnaires qui avaient été distribués pour tout le monde. Chacun pouvait donner son avis sur la pub.
Alors,
il fallait les trouver déjà.
Ils n'ont pas été distribués. Moi, j'en ai distribué à mes amis. Mais ils n'étaient pas distribués dans les boîtes aux lettres, par exemple. Ils étaient déposés dans les mairies. Et donc, aucune publicité, voilà, sauf les déboulonneurs qui ont fait de la publicité pour cette concertation. Et donc, il y a eu aussi un concours photo auquel Beaucoup d'antipubs ont participé, voilà, mais à part ça, d'autres citoyens, je ne pense pas.
C'est des photos où on pouvait, par exemple, prendre en photo des panneaux qui pouvaient gêner la circulation ou des panneaux qu'on trouvait laids ou inappropriés. Enfin, ça, c'est dans leur esprit. Nous, on conteste.
Non, dans leur esprit, c'est aussi un panneau qui est bien intégré, par exemple.
Ah oui, ça peut être ça aussi. Parce que ça fait partie de l'argumentaire. C'est beau, ça met de la vie dans la ville.
Donc, le questionnaire demandait ce que ça pouvait être, par exemple, d'après nous, un panneau. Un bon panneau, qu'est-ce que c'est le bon panneau de pub?
C'est celui qui n'existe pas.
Ou plus exactement, dans ce sens-là. Non, pour plus exactement, chez les déboulonneurs, évidemment, on nous reproche souvent parfois d'être réformistes et de dire oui, la pub, il faut l'enlever tout simplement. Et nous, on cherche à réduire la taille de la pub, du panneau de pub. Bon, en réalité, si on obtenait 50 fois 70 cm, on est bien d'accord que la pub, enfin, le système publicitaire s'effondrerait, quoi, en tout cas dans l'affichage extérieur. Mais c'est un objectif atteignable, et même si en face il y a des lobbies monstrueux, je ne sais plus ce que j'allais dire.
Alors je rebondis dans les objectifs pour le règlement local de publicité. Ce que moi, à titre personnel, j'aimerais y voir figurer, c'est l'interdiction des panneaux, des écrans, donc des télé géantes qu'on voit dans les rues.
De plus en plus.
De plus en plus. On aimerait aussi l'interdiction de la publicité aux abords des écoles. Donc ça, c'est une mesure qu'on peut prendre dans le RLP de Paris. Il y a une mesure comme ça, qu'autour, 100 mètres autour des écoles, on n'a pas le droit de mettre de publicité. Donc on aimerait bien voir faire figurer ça à Lille. Et je voulais dire aussi les réunions publiques. Il y en avait une ce soir à Fachetuménil. Et la prochaine réunion publique, c'est samedi 18 avril à 9h30 à Armentières.
Réunion publique à 6h30 du matin. Non, mais bon, c'est bien d'y aller quand même.
Évidemment, ça mobilise les foules. Tout le monde est très, très intéressé, veut défendre la publicité.
Alors, à la dernière réunion publique, il y avait 7 personnes, 5 militants anti-pub et 2 personnes de la mairie de Villeneuve-d'Ascq où se tenait la réunion.
Donc 100% des personnes, des citoyens, sont anti-pub si on tire des conclusions à partir de ça.
J'aime bien votre objectivité. On se voit, hein, on fait quand même.
Comme à la radio.
En même temps, eux-mêmes aiment bien les chiffres, ils aiment bien faire des statistiques sur tout, donc au final...
Et donc, je reviens sur... Parce que j'ai retrouvé... Non, mais c'est parce que... donc, nous sommes pour la réduction du format de la publicité, pas pour sa suppression. Et parce qu'on voudrait que, par exemple, si on arrivait à un maximum de 50 fois 70 cm, qui est une stricte densité, par exemple, ça soit maximum sur 2 mètres carrés, mais que, en fait, le public aille vers l'information plutôt que ça soit imposé, quoi. C'est ça qui est important. Après, on est pour la suppression aussi des pubs qui sont néfastes pour l'environnement, pour la santé. Qui présente des dangers immédiats. Et là, on peut, là où les publicitaires disent mais non, on vend du rêve,
on rend du vent.
Et ben nous, on appelle ça du mensonge tout simplement, de la falsification, ce que vous voulez. Et là, on peut en supprimer pas mal effectivement.
C'est plus utopique non plus de vouloir supprimer la pub dans une ville, puisqu'on a eu récemment le cas de Grenoble qui a décidé de pas renouveler la concession, je sais pas si on appelle ça comme ça.
Un contrat.
Tu parles de cimetière, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, et justement, tu peux en parler, Marion, peut-être
Oui, alors déjà, ça va pas être supprimer toute la publicité, c'est seulement celle qui est en contrat avec la ville, donc ça concerne quand même plusieurs centaines de panneaux qui ont commencé à être démontés, et ils sont remplacés par des arbres. Il restera toujours la publicité sur les abribus. Le contrat court encore jusqu'en 2018, je crois. Et puis aussi la publicité qui est sur les pignons des maisons, dans les jardins des gens, ça n'a pas bougé, donc il va rester. Bon, faut pas être trop négatif, c'est quand même une super nouvelle, parce que c'est...
Inespéré.
Voilà. C'est une grande ville qui a réussi à se défaire de la publicité. À Lille, on a Lille et l'Emlom, on a un contrat du même type qui arrive à échéance en 2017. Donc...
On a deux ans.
Il y a une grande ville qui a réussi à le faire. Il n'y a pas de raison que Lille n'arrive pas à le faire. On compte.
C'est possible. Et donc avec résistance à l'agression publicitaire, on va lancer une pétition. On invite tous les Lillois, et tout le monde d'ailleurs, à signer cette pétition pour que, effectivement, dans 2 ans, la ville de Lille ne reconduise pas ce contrat, et c'est possible.
Et se débarrasse de tous ces panneaux.
Ouais, un peu de démocratie, ça peut être bien. Un petit référendum sur la publicité qu'on nous a pas demandé de si oui ou non, vous on la voulait dans la rue. Voilà.
Mais du coup, avant d'en arriver au procès, on va peut-être passer une petite chanson.
Une chanson sur un procès. C'est The Trial de Pink Floyd sur l'album The Wall.
Yeah.
Vous êtes toujours sur l'appel des escargots sur Radio Campus. Et on est ce soir avec les déboulonneurs de pub. On va se dépêcher un peu, on n'a plus beaucoup de temps et encore beaucoup de choses à dire. Donc Alès, tu voulais rappeler un peu les reproches faits à la pub par les déboulonneurs.
Bah oui, parce que on aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas convaincu forcément de...
Du bien fondé.
Du bien fondé de notre action, en tout cas. Parce que si on fait de la désobéissance civile, c'est que, et c'est ce qu'on va défendre au procès, c'est qu'on fait c'est l'ultime recours, en fait. C'est-à-dire que toutes les autres actions légalistes ou légales ont été épuisées. Les lettres aux politiques, voir des politiques, il y a de nombreuses associations qui alertent de ces dangers, mais on n'est pas entendu. Et il y a toujours de plus en plus de pubs partout. Donc c'est l'ultime recours, on est obligé de faire la désobéissance, on est obligé de faire ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ce qui est très important de dire, c'est que lors d'un procès à Paris en 2013, les débarbouilleurs ont été relaxés pour état de nécessité. État de nécessité. Les quoi ?
Tu as dit les débarbouilleurs.
Non, j'ai dit des barbouilleurs, certains, il y en a six, qui ont été relaxés pour état de nécessité, c'est-à-dire qu'une juge à Paris, j'espère que ça va faire jurisprudence, a estimé que la publicité représentait un danger immédiat pour la société. Et c'est très dur d'expliquer pourquoi c'est dangereux, alors que pour nous, ça nous paraît forcément évident. Tout à l'heure, on nous dit ça crée de l'emploi, ça crée de la croissance. Oui, mais à quel prix ? C'est encore une fois de plus, comme vous devez le dire dans vos émissions, c'est l'emploi, c'est l'économie qui passe avant l'humain, tout simplement, quoi. L'emploi, comme ce sont les plus grands groupes qui ont la plus grande part de l'affichage, sont des multinationales qui détruisent l'emploi, c'est bien connu. Donc ça crée un peu d'emploi, mais ça en détruit beaucoup. La croissance, oui, mais à quel prix ? Comment sont fabriqués les produits ? Dans quelles conditions ? Et quelles ressources ? Etc. Je pense que ça, vous en parlez à longueur d'émissions,
de temps.
Donc je vais pas développer, mais ce qu'on reproche aussi, c'est que voilà, ils sont énergivores, il y en a un tiers qui sont illégaux, ils sont laids, c'est du matraquage, il y en a partout. On parle de Lille, mais on s'attaque pas seulement à la publicité dans les villes, mais aussi dans les campagnes, qui sont complètement massacrées visuellement, et l'esthétique, c'est important. Voilà, ils sont dangereux aussi pour la circulation. Il faut savoir quand même que les panneaux de pub sont tournés principalement vers les voitures, hein, les automobilistes. Or, ils sont censés capter l'attention de l'automobiliste. On ne voit pas pourquoi les portables sont interdits au volant, parce que pour une question de sécurité routière. Et par contre, les publicités sont autorisées.
Même pour aller plus loin, c'est que sur les autoroutes, elles sont interdites, les publicités.
Et techniquement, dans le code de la route, les publicités lumineuses sont interdites. Donc les écrans publicitaires qu'on voit partout, ils sont interdits par le code de la route.
Donc voilà. Mais même si on est censé capter notre attention, ça devrait être interdit de fait. Et souvent, les publicitaires, notamment en ville, se disent « Oui, mais on fait de l'affichage municipal, pub culturel, etc. » Il faut bien savoir que ça, c'est sur l'autre face. Hein. Vous ne le verrez pas. C'est pas la face principale, évidemment. C'est pour leur bonne conscience. Ouais, c'est dangereux pour plein d'aspects. On a parlé tout de suite du publisexisme aussi.
Dangereux pour la santé aussi, la publicité qui incite toujours à manger.
Mais à ne pas grignoter.
À manger mais sans grossir.
Oui, oui. À destination des enfants. Et on est très content d'avoir fait l'action qui nous a mené au procès. On l'a commencé devant une école. Alors il y a des parents qui disaient oui, vous êtes responsable à la désobéissance, vous êtes des délinquants, machin, tout ça. Et au contraire, heureusement, et ça nous a fait plaisir, il y a des parents qui disaient oui, c'est très bien ce que vous faites. Parfois, il faut désobéir. Et en l'occurrence, on avait mis pas de pub devant les écoles. Ça devrait être interdit, évidemment, parce que la cible privilégiée des publicitaires, c'est l'enfant, que ce soit à la télé, mais aussi dans la rue, pour que ça devienne un parfait consommateur et qu'il prenne des habitudes de consommation toute sa vie durant. Et c'est scandaleux parce qu'évidemment, l'enfant, déjà l'adulte ne se rend même pas compte, mais l'enfant encore moins, quoi. Voilà, il y a toutes sortes de griefs, et ça nous amène au procès. Là, on n'a pas encore nos témoins. On a un avocat qui s'appelle William Bourdon, qui est un des cinq avocats d'Edward Snowden, que vous connaissez, enfin, qui est qui est très médiatisé en ce moment. Et par contre, les témoins, on n'en a pas encore. Mais dans le passé, il y a eu 20 procès, une vingtaine de procès au national. Et il y a eu des gens comme Claude Gault qui a œuvré, qui est un médecin réputé, qui a œuvré pour dans le cadre de la loi E20, qui explique régulièrement à nos procès pourquoi c'est dangereux pour la santé, etc. Et on a des personnalités, il y a des élus qui viennent, souvent des élus verts, mais qui viennent nous aider, nous soutenir, et toutes sortes de témoins.
Et concrètement, ça va se passer comment, le procès? Et rappeler la date aussi, ça peut être...
Alors le procès, ça sera le 9 juin, c'est un mardi, et c'est 14h, et c'est au Palais de Justice de Lille, avenue du Peuple Belge.
Nous suivons les traces de Desca. Et donc on sera deux à être prévenus, mais effectivement c'est un collectif, et c'est ça qui est fort, c'est que c'est non seulement un collectif lillois, mais en plus national. Donc il y a toute une force derrière, politique, et on invite, enfin c'est pour avoir assisté à des procès ailleurs, c'est vraiment un moment fort, un moment militant très très fort. Et j'invite vraiment tous les gens qui se sentent concernés, tous les militants et pas militants, tous les gens qui en ont marre de la pub, à nous soutenir, alors soit par leur présence, soit par des dons, parce qu'un procès ça coûte cher. Et donc vous pouvez trouver sur le site des déboulonneurs.org, vous pouvez trouver
une plateforme en ligne
pour
permet
nous soutenir.
De faire des dons qui sont déductibles d'impôts à 66%.
C'est bien de le préciser. Et puis nous soutenir tout simplement. On va faire une grande action le 25 avril, le samedi 25 avril, Grand Place à Lille à 16h. Pendant toute la journée, on sera présent à dès 11h, et on va inviter les gens sur des papiers craft à s'exprimer, parce que voilà, c'est reprendre l'espace public aussi, ça c'est important de le dire. On veut se réapproprier l'espace public, redonner la parole aux gens, et donc on pourra mettre... tous des slogans anti-pub ou alors des dessins sur papier craft, qu'on collera ensuite lors d'une grande action très festive où il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Parce que plus on est, plus c'est médiatisé, ou en tout cas, plus ça fait, on a de force. Voilà, ça sera le samedi 25 avril à 16h pour une grande action non violente et festive.
Rendez-vous Grand Place.
Voilà.
Et il y aura aussi le 6 juin, le samedi 6 juin, donc juste avant le procès, il y aura une soirée au cinéma L'Univers, avec la projection de Super Cash Me, et il y aura aussi des surprises.
Ouais, c'est organisé par qui, ça?
Par nous, je crois.
Par les objecteurs de croissance de Lille, bien sûr. C'est dans le cadre de la semaine de la décroissance, donc qui commence le 1er juin, le lundi, et qui se termine le dimanche, avec donc le samedi une soirée de soutien. Voilà. À dire que Super Cash Me, c'est... par celui qui a fait Super Size Me, le monsieur qui a mangé plein de McDo et qui a failli en mourir. Et donc, moi je vous invite à venir parce que le film est très bien et la soirée sera magnifique.
Et ça sera surtout en soutien aux déboulonneurs, parce qu'on vient de le dire, on a besoin de
sous.
De sous, et oui. Et pour revenir sur le procès, on est deux à être prévenus, il y aura des témoins. Et il faut se dire qu'on est attaqué
pour
deux choses.
Pourquoi, voilà.
Pour une dégradation légère de différents panneaux, et aussi parce qu'on a refusé de donner notre ADN. Voilà. Donc c'est deux sujets assez passionnants, et on ne voit pas pourquoi on serait inscrit dans des fichiers qui étaient prévus au départ pour des délinquants.
Qui barbouille un panneau est susceptible de tuer quelqu'un.
Hein, ouais.
Quand tu mets un pied en dehors des clous.
Quand on viole un panneau, après...
On ne sait pas où ça finit.
Mais oui. Donc, ça sera vraiment très intéressant.
Et au niveau des risques encourus,
c'est comme beaucoup d'infractions. On risque soi-disant un an de... Je ne sais plus si il y a un mois.
Pour l'ADN, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Oui, bon, dans les faits, évidemment, lors des différents procès, le maximum qu'il y a eu, c'est 500 euros d'amende à Amiens. D'habitude, ça peut être 1 euro avec sursis, ou alors 100 euros d'amende. On sait qu'on n'ira pas en prison, quoi. Encore heureux.
Et pour le barbouillage
Pour
le barbouillage, que là vous avez parlé des...
Ah non, c'est pour les deux.
Pour les deux.
Ouais, c'est la même chose.
Et ce qu'on va demander, c'est la relaxe. Hein.
Et la relaxe, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà eu un jugement favorable à Paris, et l'avocat va s'appuyer là-dessus pour qu'on soit relaxé, et qu'officiellement on dise oui, vous avez raison de faire ça, et c'est d'utilité publique, et c'est pour le bien public face aux intérêts marchands, il faut que la société civile dise ben non, on se préoccupe plus de la santé, de l'environnement, que des profits des grandes multinationales. C'est évident, non, pourtant.
Bah oui, oui, nous on le sait, nous. On se sent souvent bien seul.
Bah, on le voit dans la rue. On peut le dire maintenant que l'émission est presque finie, qu'on n'est pas tout à fait neutre et qu'on a déjà pris part aux actions des déboulonneurs. Mais dans la rue, oui, on voit que tout le monde est loin d'être convaincu.
Oui, mais d'ailleurs, moi, Marion, tu as vu quelque chose de fou cet après-midi. Alors, tu peux nous en parler.
Cet après-midi, sur la Grand Place, il y avait 4 personnes, des hommes sandwich, qui portaient un écran vidéo sur leurs épaules. Et c'était de la publicité pour
Coca-Cola, non ?
Transpol,
ah !
Dont le slogan était une histoire de liberté. Voilà. Si, voilà. À vous la liberté. Ouais. Avec une télévision sur les épaules.
La télé rend libre.
Ouais, rien ne les arrête.
Ça va pas être le mot de la fin quand même. Non mais non. Parce que tout à l'heure on a parlé de résistance à l'agression publicitaire. Il y a aussi Paysages de France qui lutte contre la pollution visuelle,
un mouvement légaliste,
et qui fait condamner très régulièrement les préfectures, les mairies, enfin les institutions, oui. Parce qu'il y a beaucoup de panneaux illégaux en France, notamment dans les zones protégées. Je tiens à signaler un autre argument anti-pub, que quand même, si, même à Lille, dans le vieux Lille, vous ne verrez pas beaucoup de pubs, parce qu'il y a des zones protégées. Mais alors chez les pauvres. Imaginez bien qu'on peut saccager, puisque de toute façon c'est moche déjà, on peut y aller, on peut mettre des pubs.
Mais c'est pareil, c'est que quand on fait des actions dans le centre, les pubs restent quelques heures, enfin le barbouillage reste quelques heures. J'ai souvenir qu'à FIF c'est resté 2 semaines.
Oui, bah, c'est pas la même chose. Et on protège, tout sentiment de protection donc de l'architecture, qui vaut mieux que les humains, mais il y a aussi protéger nos cerveaux. Quoi. Et s'il y a des zones protégées, ça veut bien dire quand même que c'est nocif. Enfin, voilà, ça me semble logique. Ouais. Et voilà.
Eh bien, juste avant
et non, je voulais dire aussi, je voulais dire, parce qu'il y a vraiment de plus en plus de collectifs chez les déboulonneurs ou ailleurs qui se créent. Donc rejoignez-nous et essayez d'en créer un peu partout. Et voilà, c'est.
Et sinon, pour ceux qui sont à Lille et qui voudraient rejoindre, on peut dire qu'il y a une réunion tous les mois.
Tous les premiers mercredis du mois au Café Citoyen.
Et sauf que le mois prochain, ça sera le deuxième mercredi du mois, le 11 mai.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site des Déboulonneurs. Et vu qu'il nous reste juste quelques secondes, vous rappelez que mercredi prochain, le 22 avril, on organise un ciné-débat à l'Univers. On passe le film Autour du monde sur les traces du climat, et donc c'est sur le climat. Donc venez nombreux et nombreux.
Et la semaine prochaine, ce sera l'émission Laisse béton. Et on se retrouve avec l'appel des escargots dans 2 semaines normalement.
Voilà.
Et d'ici là, tout de suite, ça va être Trim.
Une page de publicité ?
Non.
Oui, peut-être au top horaire, mais de la pub pour Radio Campus.